Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'émissions sur les 10 commandements. Nous allons donc étudier de près le 4e et le 5e commandement. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire à radio-silence@wanadoo.fr. Nous vous répondrons dans le plus bref délai. Le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Ce commandement nous demande d'honorer et de respecter nos parents et ceux que Dieu, pour notre bien, a revêtus de son autorité. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même avait voulu, dès le début de notre création, qu'un homme et une femme, unis indissolublement par le mariage, forment avec leurs enfants une famille. Car la famille reflète l'amour intertrinitaire, c'est-à-dire l'échange réciproque de l'amour. Le mariage et la famille sont ordonnés au bien des époux, à la procréation et à l'éducation des enfants. Négliger un de ces aspects équivaut à ne pas respecter la volonté de Dieu. Dans le Christ, la famille n'est pas seulement une communauté temporaire d'intérêt commun, mais une église domestique insoluble, parce qu'elle est communauté de foi, d'espérance et d'amour. La vie de famille est aussi une initiation à la vie de société. L'enfant apprend à respecter les autres, à ne pas imposer toujours sa propre volonté, à vivre à l'écoute des autres et à vivre au service des autres, ce qui est très difficile à apprendre sans un cadre familial bien affectueux. Par contre, la société a le devoir de soutenir et d'affermir le mariage et la famille, puisqu'elle est la cellule originelle de la société humaine. La société devrait tout faire pour que les familles puissent élever leurs enfants convenablement. Il est de bon ton aujourd'hui de ne pas vouloir respecter ces institutions sacrées que sont le mariage et la famille. Le mariage n'est pas dissoluble au gré des partenaires comme le souhaiteraient beaucoup de gens. Ce n'est pas une institution temporaire entre hommes et femmes, ou pire, entre deux partenaires du même sexe, comme nous le voudraient faire croire de nombreux mauvais exemples. Jésus est formel là-dessus. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage est un lien sacré entre les deux époux qui reflète l'alliance que Dieu a établie avec l'humanité. Et ce lien a été établi seulement entre hommes et femmes. Tout autre partenariat est une horreur pour Dieu, comme nous lisons dans l'histoire de Sodome et de Gomorre. Quels sont les devoirs des enfants envers leurs parents? Ils doivent aimer leurs parents, se réconcilier avec eux. Il est de bon ton, surtout en cas de problème de comportement, de dévoiler les soi-disant fautes des parents. Mais comme nous sommes tous sous le joug du péché originel, nous faisons le mal, même sans le vouloir. Regardez l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19. « Car je ne fais pas ce que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est pourquoi chaque génération fait des fautes, surtout en ce qui concerne l'éducation des enfants. Car nous portons tous un fardeau de conditionnement en nous, dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Or, l'adolescent, qui se rend compte de la vulnérabilité et des fautes de ses parents, doit apprendre à leur pardonner, à se réconcilier avec eux. C'est un procès de maturation qui peut se traîner le long de toute une vie. L'enfant, en grandissant, doit aussi apprendre à respecter ses parents, même s'ils ne partagent pas leurs opinions. Il doit se montrer solidaire de sa famille. il ne doit pas abandonner ses parents quand ils sont âgés. Il ne doit pas les laisser dans la misère s'il peut remédier à cela. Il est de bon ton parmi nos jeunes adolescents de mettre les parents sur la touche, c'est-à-dire de ne pas les laisser avoir part à leur propre vie. On se croit adulte si l'on mène une vie retranchée de la vie familiale. Malheureusement, cette attitude est encore corroborée par beaucoup de soi-disant bons amis. Mais est-ce vraiment un signe d'amour si l'on ne communique pas? Très souvent, les parents sont les derniers à apprendre ce que d'autres, étrangers à la famille, clament déjà sur tous les toits. Est-ce là vraiment un signe de confiance? Un comportement pareil ne traduit-il pas une certaine indolence, un certain mépris, voire un égoïsme brutal? Vous allez me demander si les parents aussi ont des devoirs envers les enfants. Bien sûr, puisque les parents participent à la paternité divine, leur principal devoir est d'éduquer les enfants de sorte qu'ils gagnent la vie éternelle. Leur principal devoir est donc d'annoncer et de vivre la foi chrétienne. Les enfants ne leur appartiennent pas comme des objets chosifiés, mais ils doivent aimer et respecter leurs enfants comme personnes et comme fils de Dieu que Dieu leur a confiés. Ils doivent subvenir à leurs besoins matériels et spirituels. Ils doivent tout faire pour leur procurer une bonne éducation et ils doivent les guider dans leurs choix professionnels. Cela vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et que faire si les enfants, en grandissant, jettent par-dessus bord toute l'éducation reçue, surtout sur le plan religieux? Alors, passé un certain âge, mettons à la fin de l'adolescence, les parents ne peuvent souvent plus parler avec leurs enfants des choses qui leur tiennent à cœur. Par exemple, les concepts de chasteté, de vie et pratiques religieuses ne sont souvent plus pris au sérieux par les jeunes, voire ils sont foulés aux pieds. Pourtant, ces deux concepts se tiennent, car Jésus nous dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Alors, aux parents chagrinés, il ne reste souvent plus que prier Dieu pour qu'ils prennent leurs enfants en charge. Si un enfant commet une faute, il est donc impensable qu'un membre de la famille, fût-ce le père même, attente à la vie d'un de ses enfants, seulement parce qu'il ne partage pas ses opinions ou parce qu'il a commis un péché. Dans ce cas, il incombe aux parents de réparer la faute tout en aidant l'enfant à retrouver le droit chemin. Par exemple, si une jeune fille a fait un soi-disant faux pas et qu'elle se trouve enceinte, la seule chose que les parents peuvent faire est d'aider la jeune fille à bien accoucher de son enfant et de participer discrètement à l'éducation de leur petit enfant. Toute punition de la part des parents serait contre l'esprit de miséricorde proclamé dans l'Évangile. Et si l'enfant jette par-dessus bord les opinions religieuses des parents? Dans ce cas-là, les parents doivent d'abord parler avec leur enfant, mais ils doivent surtout supplier la Sainte Vierge pour qu'elle ramène l'enfant dans le droit chemin, car c'est elle seule qui sera victorieuse de toutes les hérésies. C'est pourquoi la prière du chapelet récitée pour les enfants est tellement recommandée par la Sainte Vierge elle-même. Rappelons que Sainte Monique pria des années durant pour que son fils Augustin renonce à sa vie dissipée et qu'il retrouve la vraie foi. Ses prières furent exaucées et Augustin devint un des plus grands saints de l'Église catholique, voire évêque d'Hippone et père de l'Église. N'oublions pas que Saint Augustin était de souche berbère et que Tagaste, son lieu de naissance, et Hippone se trouvent dans l'Algérie actuelle. Existe-t-il des situations où les liens familiaux passent en seconde ligne? Il faut se rappeler que les liens de famille ne sont pas absolus, parce que la première vocation du chrétien et de suivre Jésus en l'aimant. Qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Cela veut dire que même les liens de parenté s'éclipsent devant l'appel péremptoire de Jésus de le suivre sans tergiverser. Il en est de même pour les vocations de la vie consacrée ou sacerdotale. Si un enfant se sent attiré par la vocation religieuse, il serait un grand péché de la part des parents de vouloir l'en dissuader. Le cinquième commandement. Tu ne tueras pas. Cela signifie d'abord combattre la colère et la jalousie, ne pas devenir l'ennemi de son prochain. Puis, cela signifie respecter la vie humaine dans toutes ses formes, parce que la vie humaine est un don de Dieu, notre Créateur, elle est donc sacrée. Il nous est formellement interdit de tuer un être humain, qui que ce soit, et dans quel état qu'il soit, car cela est gravement contraire à la dignité de la personne et à la sainteté du Créateur. Le cinquième commandement interdit donc formellement les actes suivants, comme gravement contraires à la loi morale. L'homicide direct et volontaire, l'avortement, ainsi la coopération à cet acte, avec la peine d'excommunication, parce que l'être humain, dès sa conception, doit être défendu et protégé de manière absolue dans son intégrité. L'euthanasie, qui consiste à mettre fin à la vie de personnes handicapées, malades, des personnes âgées ou en fin de vie. Le suicide, parce qu'il est une offense grave à l'amour de Dieu. Mais n'oublions pas que très souvent cet acte est commis dans un état mental fortement perturbé, ce qui diminue la responsabilité de l'individu. Par contre, il est d'autant plus scandaleux si le suicide est instrumentalisé pour tuer d'autres gens innocents. Alors un acte pareil est un crime horrible, une grave offense à Dieu. Et que dire de la peine de mort? Il faut dire que toute peine infligée doit être proportionnée à la gravité du délit. Mais aujourd'hui, nous ne suivons plus la loi du talion, et les moyens non sanglants sont appliqués de priorité parce qu'ils correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun, ils sont plus conformes à la dignité de la personne et n'enlèvent pas définitivement pour le coupable la possibilité de se racheter. Très souvent, des grands criminels se sont convertis en prison et ont mené une vie exemplaire après avoir purgé leur peine, comme par exemple Alessandro Serenelli, l'assassin de Maria Goretti, cette jeune martyre de la chasteté. Le cinquième commandement ne se limite pas à l'attentat à la vie d'autrui, mais il concerne aussi notre propre corps. Notre corps nous est confié par Dieu comme un bien à gérer. Il faut donc éviter tout excès, mais aussi tout culte du corps. C'est pourquoi il nous est formellement interdit tout ce qui pourrait causer de graves dommages à la santé et à la vie humaine. Par exemple, tout excès de sport, tout usage de stupéfiants, tout abus ou refus de la nourriture, tout abus d'alcool, de tabac et de médicaments. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelles sont les pratiques contraires au respect de l'intégrité corporelle de la personne humaine? Ce sont les enlèvements et les prises d'otages de personnes, le terrorisme, la torture, les violences, la stérilisation directe. Les amputations et les mutilations d'une personne ne sont moralement acceptables qu'à des fins thérapeutiques pour la personne elle-même, mais jamais, jamais comme punition juridique. comment doivent être traités les corps des défunts? Les corps des défunts doivent être traités avec le plus grand respect. Normalement, ils sont mis en terre, mais l'incinération est également autorisée à condition qu'elle ne mette pas en cause la foi en la résurrection des corps. Que veut dire « bienheureux les artisans de la paix » Jésus appelle ceux-là bienheureux qui luttent contre leurs propres mauvais penchants pour avoir la paix du cœur. Il nous met en garde contre la colère qui est un désir de vengeance pour le mal subi et la haine qui porte à désirer le mal pour le prochain. Ces comportements constituent un grave péché contre la charité et sont à combattre dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que la paix dans le monde ? La paix dans le monde n'est pas seulement un armistice, une absence de guerre ou l'équilibre de forces opposées. Et le fruit de la justice, effet de la charité. Nous ne pouvons pas jouir de la paix sans respecter les commandements de Dieu, car la paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, qui n'est rien d'autre que l'alliance vécue avec Dieu qui est amour. Alors, quand nous implorons le Christ, le serviteur de Dieu, l'agneau de Dieu, au moment de l'Agnus Dei, avant la Sainte Communion, Dona nobis pacem, donne-nous la paix. Ça veut dire que nous demandons au Christ la paix intérieure, cette plénitude qui est fruit d'une parfaite union intime avec lui. C'est seulement de cette paix-là, de cette paix intérieure, que découle la paix extérieure et politique. Quand est-ce qu'on peut avoir recours à la force militaire? Tout d'abord, il faut dire qu'il faut éviter à tout prix la guerre, car elle est toujours un fléau pour l'humanité et dégénère toujours en catastrophe humanitaire. En cas de légitime défense, il est permis d'imposer aux citoyens l'obligation de la défense nationale. Mais de toute façon, chaque individu doit avoir le droit personnel à l'objection de conscience qui lui permet de s'investir différemment au service des autres. Regardez par exemple le cas de Franz Jägerstätter, qui a été béatifié à Linz, en Autriche, le 26 octobre 2007. On devrait tout entreprendre pour éviter des conflits armés, par exemple éviter les injustices économiques et sociales, les discriminations ethniques et religieuses, l'envie, la défiance, l'orgueil et l'esprit de vengeance. Nous devrions toujours nous tenir présents que tout prochain, n'importe de quel pays il ressort, est mon frère ou ma sœur, dont je suis responsable devant la Sainte Trinité. Mes chers auditeurs et mes chères auditrices, nous terminons la présente émission. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois. Votre Véronique.